Honoré de Balzac, Les proscrits. Almae sorori, à ma bienfaisante sœur. Chapitre 1. Le sergent de ville. En 1308, il existait peu de maisons sur le terrain formé par les alluvions et par les sables de la Seine, en haut de la cité, derrière l'église Notre-Dame. Le premier, qui osa bâtir un logis sur cette grève soumise à de fréquentes inondations, fut un sergent de la ville de Paris, qui avait rendu quelques menus services à messieurs du chapitre Notre-Dame. En récompense, l'évêque lui bailla 25 perches de terre et le dispensa de toute censive ou redevance pour le fait de ses constructions. 7 ans avant le jour où commence cette histoire, Joseph Tirechair, l'un des plus rudes sergents de Paris, comme son nom le prouve, avait donc, grâce à ses droits dans les amendes par lui perçues pour les délits commis S. rue de la Cité, bâtit sa maison au bord de la Seine, précisément à l'extrémité de la rue du Port Saint-Landry. Afin de garantir de tout dommage les marchandises déposées sur le port, la ville avait construit une espèce de pile en maçonnerie qui se voit encore sur quelques vieux plans de Paris, et qui préservait le pilotis du port en soutenant à la tête du terrain les efforts des eaux et des glaces. Le sergent en avait profité pour asseoir son logis, en sorte qu'il fallait monter plusieurs marches pour arriver chez lui. Semblable à toutes les maisons du temps, cette bicoque était surmontée d'un toit pointu qui figurait au-dessus de la façade la moitié supérieure d'un losange. Au regret des historiographes, il existe à peine un ou deux modèles de ces toits à Paris. Une ouverture ronde éclairait le grenier dans lequel la femme du sergent faisait sécher le linge du chapitre, car elle avait l'honneur de blanchir Notre-Dame, qui n'était certes pas une mince pratique. Au premier étage étaient deux chambres qui, bon an, mal an, se louaient aux étrangers à raison de 40 sous parisis pour chacune, prix exorbitant, justifié d'ailleurs par le luxe que Tirechair avait mis dans leur ameublement. Des tapisseries de Flandre garnissaient les murailles. Un grand lit orné d'un tour en serge verte semblable à ceux des paysans était honorablement fourni de matelas et recouvert de bons draps en toile fine. Chaque réduit avait son chauffe-doux, espèce de poêle dont la description est inutile. Le plancher, soigneusement entretenu par les apprentis de la Tirechair, brillait comme les bois d'une chasse. Au lieu d'escabelles, les locataires avaient pour siège de grandes chaires en noyer sculpté, provenues sans doute du pillage de quelques châteaux. 2 bahuts incrustés en étain, une table à colonne torse, complétaient un mobilier digne des chevaliers bannerets, les mieux huppés que leurs affaires amenaient à Paris. Les vitraux de ces deux chambres donnaient sur la rivière. Par l'une, vous n'eussiez pu voir que les rives de la Seine et les 3 îles désertes dont les 2 premières ont été réunies plus tard et forment l'île Saint-Louis, aujourd'hui. La 3e était l'île Louviers. Par l'autre, vous auriez aperçu, à travers une échappée du port Saint-Landry, le quartier de la Grève, le pont Notre-Dame, avec ses maisons, les hautes tours du Louvre récemment bâties par Philippe Auguste, et qui dominait ce Paris chétif et pauvre, lequel suggère à l'imagination des poètes modernes tant de fausses merveilles. Le bas de la maison à Tirechère, pour nous servir de l'expression alors en usage, se composait d'une grande chambre où travaillait sa femme et par où les locataires étaient obligés de passer pour se rendre chez eux en gravissant un escalier pareil à celui d'un moulin. Puis derrière se trouvaient la cuisine et la chambre à coucher qui avaient vue sur la Seine. Un petit jardin conquis sur les eaux étalait au pied de cette humble demeure ses carrés de choux verts, ses oignons et quelques pieds de rosier défendus par des pieux formant une espèce de haie. Une cabane construite en bois et en boue servait de niche à un gros chien, le gardien nécessaire de cette maison isolée. À cette niche commençait une enceinte où criaient des poules dont les œufs se vendaient aux chanoines. Çà et là, sur le terrain fangeux ou sec, suivant les caprices de l'atmosphère parisienne, s'élevaient quelques petits arbres incessamment battus par le vent, tourmentés, cassés par les promeneurs. Des saules vivaces, des joncs et de hautes herbes. Le terrain, la Seine, le port, la maison, étaient encadrés à l'ouest par l'immense basilique de Notre-Dame, qui projetait au gré du soleil son ombre froide sur cette terre. Alors, comme aujourd'hui, Paris n'avait pas de lieu plus solitaire, de paysage plus solennel ni plus mélancolique. La grande voix des eaux, le chant des prêtres ou le sifflement du vent troublaient seuls cette espèce de bocage où parfois se faisaient aborder quelques couples amoureux pour se confier leurs secrets, lorsque les offices retenaient à l'église les gens du chapitre. Par une soirée du mois d'avril, en l'an 1308, Tirechère rentra chez lui singulièrement fâché. Depuis 3 jours, il trouvait tout en ordre sur la voie publique. En sa qualité d'homme de police, rien ne l'affectait plus que de se voir inutile. Il jeta sa hallebarde avec humeur, grommela de vagues paroles, en dépouillant sa jaquette, mi-partie de rouge et de bleu, pour endosser un mauvais hoqueton de camelot. Après avoir pris dans la huche un morceau de pain sur lequel il étendit une couche de beurre, il s'établit sur un banc, examina ses 4 murs blanchis à la chaux, compta les solives de son plancher, inventoria ses ustensiles de ménage, appendus à des clous, maugréa d'un soin qui ne lui laissait rien à dire, et regarda sa femme, laquelle ne soufflait mot en repassant les aubes et les surplis de la sacristie. « Par mon salut, » dit-il pour entamer la conversation. « Je ne sais, Jacqueline, où tu vas pêcher tes apprentis. En voilà une !» ajouta-t-il en montrant une ouvrière qui plissait assez maladroitement une nappe d'autel. « En vérité, plus je la mire, plus je pense qu'elle ressemble à une fille folle de son corps, et non à une bonne grosse serve de campagne. Elle a des mains aussi blanches que celles d'une dame. Jour de Dieu ! Ses cheveux sentent le parfum, je crois. Et ses chausses sont fines comme celles d'une reine. Par la double corne de Mahom, les choses séant ne vont pas à mon gré. L'ouvrière se prit à rougir et guigna Jacqueline d'un air qui exprimait une crainte mêlée d'orgueil. La blanchisseuse répondit à ce regard par un sourire, quitta son ouvrage et d'une voix aigrelette. « Ah, ça !» dit-elle à son mari. « Ne m'impatiente pas. Ne vas-tu point m'accuser de quelque manigance ? Trotte sur ton pavé tant que tu voudras, et ne te mêle de ce qui se passe ici, que pour dormir en paix, boire ton vin et manger ce que je te mets sur la table, sinon je ne me charge plus de t'entretenir en joie et en santé. Trouvez-moi dans toute la ville un homme plus heureux que ce singe-là » ajouta-t-elle, en lui faisant une grimace de reproche. « Il a de l'argent dans son escarcelle, il a pignon sur scène. » Une vertueuse hallebarde d'un côté, une honnête femme de l'autre, une maison aussi propre, aussi nette que mon œil. Et ça se plaint comme un pèlerin hardé du feu Saint-Antoine. « Ah !» reprit le sergent. « Crois-tu, Jacqueline, que j'ai envie de voir mon logis rasé, ma hallebarde aux mains d'un autre, et ma femme au pilori ?» Jacqueline et la délicate ouvrière pâlirent. « Explique-toi donc, » reprit vivement la blanchisseuse, « et fais voir ce que tu as dans ton sac. Je m'aperçois bien, mon gars, que depuis quelques jours tu loges une sottise dans ta pauvre cervelle. Allons, viens ça, et défile-moi ton chapelet. Il faut que tu sois bien couard pour redouter le moindre grabuge en portant la hallebarde du parloir au bourgeois et en vivant sous la protection du chapitre. Les chanoines mettraient le diocèse en interdit si Jacqueline se plaignait à eux de la plus mince avanie. » En disant cela, elle marcha droit au sergent et le prit par le bras. « Viens donc !» ajouta-t-elle en le faisant lever et l'emmenant sur les degrés. Quand ils furent au bord de l'eau, dans leur jardinet, Jacqueline regarda son mari d'un air moqueur. « Apprends, vieux truand, que quand cette belle dame sort du logis, il entre une pièce d'or dans notre épargne. » « Oh oh !» fit le sergent, qui resta pensif et coi devant sa femme. Mais il reprit bientôt. « Et donc, nous sommes perdus. Pourquoi cette femme vient-elle chez nous ?»« Elle vient voir le joli petit clerc que nous avons là-haut, » reprit Jacqueline, en montrant la chambre dont la fenêtre avait vue sur la vaste étendue de la Seine. « Malédiction !» s'écria le sergent. « Pour quelques traîtres écus, tu m'auras ruiné, Jacqueline ? Est-ce là un métier que doit faire la sage et prude femme d'un sergent ? Mais, fût-elle comtesse ou baronne, cette dame ne saurait nous tirer du traquenard, où nous serons tôt ou tard emboisés. N'aurons-nous pas contre nous un mari puissant et grandement offensé ? Car, charni Dieu, elle est bien belle. Oui, da, elle est veuve, vilaine oison. Comment oses-tu soupçonner ta femme de vilainie et de bêtise ? Cette dame n'a jamais parlé à notre gentil clerc. Elle se contente de le voir et de penser à lui. Pauvre enfant, sans elle, il serait déjà mort de faim, car elle est quasiment sa mère. Et lui, le chérubin, il est aussi facile de le tromper que de bercer un nouveau-né. Il croit que ses deniers vont toujours, et il les a déjà deux fois mangés depuis 6 mois. « Femme, » répondit gravement le sergent en lui montrant la place de grève, « te souviens-tu d'avoir vu d'ici le feu dans lequel on a rôti l'autre jour cette Danoise ?»« Eh bien, dit Jacqueline effrayée. Eh bien, reprit Tirecher, les deux étrangers que nous aubergeons sentent le roussi. Il n'y a chapitre, comtesse, ni protection qui tienne. Voilà Pâques venue, l'année finie. Il faut mettre nos hôtes à la porte et vite et tôt. Apprendras-tu donc à un sergent à reconnaître le gibier de potence? Nos deux hôtes avaient pratiqué la porrette. Cet hérétique de Danemark ou de Norvège, de qui tu as entendu d'ici le dernier cri. C'était une courageuse diablesse, elle n'a point sourcillé sur son fagot, ce qui prouvait abondamment son accointance avec le diable. Je l'ai vue comme je te vois. Elle prêchait encore l'assistance, disant qu'elle était dans le ciel et voyait Dieu. Eh bien, depuis ce jour, je n'ai point dormi tranquillement sur mon grabat. Le Seigneur, couché au-dessus de nous, est plus sûrement sorcier que chrétien. Foi de sergent, j'ai le frisson quand ce vieux passe près de moi. La nuit, jamais il ne dort. Si je m'éveille, sa voix retentit comme le bourdonnement des cloches, et je lui entends faire ses conjurations dans la langue de l'enfer. Lui as-tu jamais vu manger une honnête croûte de pain, une fouasse faite par la main d'un talmelier catholique? Sa peau brune a été cuite et hâlée par le feu de l'enfer. Jour de Dieu, ses yeux exercent un charme comme ceux des serpents. Jacqueline, je ne veux pas de ces deux hommes chez moi. Je vis trop près de la justice pour ne pas savoir qu'il faut ne jamais rien avoir à démêler avec elle. Tu mettras nos deux locataires à la porte. Le vieux, parce qu'il m'est suspect, le jeune, parce qu'il est trop mignon. L'un et l'autre ont l'air de ne point hanter les chrétiens. Ils ne vivent certes pas comme nous vivons. Le petit regarde toujours la lune, les étoiles et les nuages, en sorcier qui guette l'heure de monter sur son balai. L'autre sournois se sert bien certainement de ce pauvre enfant pour quelque sortilège. Mon bouge est déjà sur la rivière. J'ai assez de cette cause de ruine sans y attirer le feu du ciel ou l'amour d'une comtesse. J'ai dit, ne bronche pas. Malgré le despotisme qu'elle exerçait au logis, Jacqueline resta stupéfaite en entendant l'espèce de réquisitoire fulminé par le sergent contre ses deux hôtes. En ce moment, elle regarda machinalement la fenêtre de la chambre où logeait le vieillard et frissonna d'horreur en y rencontrant tout à coup la face sombre et mélancolique, le regard profond qui faisait tressaillir le sergent, quelque habitué qu'il fût à voir des criminels.